les sujets sur lesquels on réfléchit, justement, c'est notamment les sujets d'accessibilité numérique. C'est notamment en proposition pour créer justement un droit universel à la formation numérique, assurer que les personnes qui sont les plus impactées sont ceux qui ont en fait justement ces dispositifs assez rapidement.
Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, au micro de La Relève, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Guo, cofondatrice de Connexio. À 30 ans, Jean a un parcours remarquable. Il y a 5 ans, après plusieurs expériences dans la recherche et sur le terrain aux États-Unis et en France, elle décide de passer à l'action et de s'engager en créant Connexio, un vaste programme de formation pour favoriser l'inclusion sociale par le numérique. Chômeurs, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, réfugiés, expatriés, Jean ne veut laisser personne sur le banc de touche et donner sa chance à tous. Salut Jean.
Salut, je suis ravie d'être ici, tu vois. Merci pour l'invite.
Je suis ravie de t'accueillir. On s'est rencontrés il y a 2 ans, on était pendant le Covid. C'était le réseau Entreprendre et puis Race qui nous avait présenté. Alors, je sais que tu es américaine, installée en France, mais tu es née en Chine.
Oui.
Est-ce que tu peux nous décrire peut-être tes premières années?
Oui, donc je suis née en Chine et c'est à l'âge de 5 ans.
Ouais. Tu es née où en Chine?
Je suis née en Guiyang, qui est la capitale de la province Guizhou.
Ouais, ça peut sur la grande Chine, la carte de la grande Chine, c'est où à peu près?
C'est dans le coin plutôt sud de l'ouest de la Chine. On mange très épicé.
Épicé. Ouais.
Et c'est en fait une région où il y a beaucoup de montagnes, justement.
C'est pas très loin du Sichuan.
Oui,
avec
exactement.
Le poivre de Sichuan.
Sichuan, Hunan, toutes ces provinces qui mangent très, très épicé, justement. Et oui, c'était à l'âge de 5 ans. Je suis allée aux États-Unis avec mes parents. On était installés pas très loin de Los Angeles,
Voilà,
en Californie.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents en Chine? Enfin, ils sont partis pour s'expatrier aux États-Unis?
Ouais, c'était pour le boulot de mon père
à
l'époque. Et je pense donc ma mère, en fait, l'a suivi.
Okay,
et ensuite, moi.
Qu'est-ce qu'ils faisaient?
Ils étaient dans la logistique entre, en fait, tout ce qui est export-import de certains, en fait, matériaux entre la Chine et les États-Unis.
Ouais. Ok. Et c'est facile à 5 ans de débarquer à Los Angeles?
Pour moi, je pense que ça va. Je pense que j'ai des petites mémoires, mais quand tu es très jeune, je pense que oui, au début, tu as peur parce que c'est tout nouveau. C'est la première fois que j'ai pris l'avion, je ne me souviens plus. C'était très différent, en fait, de s'installer dans un nouveau pays. Et à l'époque, parce que toute ma famille, tout le monde était encore en Chine, donc je pense que c'était un peu différent aussi parce qu'on était les seuls. Donc je pense qu'au début, quand même, en fait, il y a ce manque aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles, tu n'es pas habitué. Et je pense que ça vient aussi avec le temps.
J'ai 3 pages de biographie de toi. C'est, je pense, la plus grande biographie que j'ai jamais eue sur La Relève. Peut-être tu peux nous décrire ton parcours académique qui est assez remarquable.
Je pense que je suis quelqu'un qui est peut-être, je ne sais pas si c'est quelque chose qui me caractérise, mais je suis très, très curieuse en tout cas sur plein des choses. Et quand en fait j'ai fait mes études à Stanford, et donc je pense que la première année j'étais sur beaucoup de choses, je pensais que je voulais être en fait ingénieure environnementale, au bout d'un moment, je voulais en fait prendre des cours de français, en fait la littérature, en fait j'étais sur, en fait vraiment sur un espace de découverte. Et donc j'ai l'impression, pour moi, j'ai choisi mes parcours de formation plutôt sur quels étaient les cours que j'aimais bien en fait suivre, et ensuite quelles étaient les formations qui correspondaient le plus, voilà. Et comme j'avais vraiment du mal, j'ai pris des cours en fait un peu dans beaucoup de différents en fait domaines. J'ai fini par choisir 2 formations qui étaient un peu différentes, un qui était l'économie. Voilà, parce que ça m'intéressait de comprendre et voir comment ça marche beaucoup des choses. Et je pense que d'étudier en fait l'économie, ça te donne plutôt en fait un cadre pour réfléchir en fait à beaucoup de questions. Et ensuite, la biologie humaine aussi.
Stanford, c'est l'université des startups, hein, ou en tout cas une université des licornes. Est-ce que tu étais dans l'univers des startups et de l'informatique et du...
Je pense que j'avais beaucoup... surtout aussi des amis qui sont toujours dans ce milieu.
Ouais.
Et bien sûr, je participais à certaines activités. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, c'était un peu le... en fait, le truc à la mode d'être en fait dans ce milieu de start-up. J'étais un peu moins en fait dans ce milieu parce que justement, je pensais tout le monde en fait y aller et je vais pas y aller parce que je vais vraiment être clair que c'est en fait mon intention, en fait mon souhait de pouvoir découvrir ça.
Économie et biologie.
Ouais, donc je pense que pour moi, j'étais vraiment très, presque très académique à la base. J'ai sorti en fait de l'école, j'avais fait en fait un premier job après en fait les études universitaires. C'était dans une boîte consulting. Ouais. C'était très quantitatif. C'était en fait de pouvoir utiliser tout ce que j'avais pris, econometrics, tous ces cours-là, mais appliquer ça en fait à des vrais cas. C'était vraiment en fait le plus académique version de consulting qu'on peut trouver.
Ok.
Je voulais en fait devenir quelqu'un qui étudiait ces domaines, mais avec une perspective très académique.
En 2011, tu bossais sur des vaccins ARN, 10 ans avant que le grand public entende parler de l'ARN.
Ouais, donc c'est, je pense que peut-être, comme je dis, je suis très curieuse et donc j'avais suivi en fait trois peut-être expériences parce qu'on fait aussi beaucoup d'expériences, des stages, des différents en fait. J'étais en fait assistante de recherche par exemple dans un laboratoire à Stanford pour l'école de médecine qui travaille justement sur le vaccin polio. J'avais écrit en fait un premier en fait article parce qu'en fait dans ces milieux-là en fait tu écris aussi beaucoup d'articles scientifiques et donc j'avais écrit en fait à la base une literature review vraiment sur des cas où des gens ils vont en fait avoir le vaccin polio mais parce que ils ont certaines conditions ils vont en fait rattraper le polio et okay. J'avais fait toute une étude sur comment en fait on analyse ça comment on va essayer de éviter en fait quelles sont les tendances pour en fait ces personnes.
C'est comme quand on est vacciné contre le Covid et qu'on le rattrape.
Ouais. Donc très spécifique, je sais.
Voilà. Comment est-ce qu'on passe de Stanford à Harvard? Ça sert à quoi?
L'expérience que j'avais eue en faisant en fait le Fulbright, qui était une bourse d'échange, quand je suis en fait revenue justement en fait en 2015 en France pour faire en fait des recherches à la Paris School of Economics, j'avais aussi en fait eu cette passion de vraiment mêler en fait des sujets de monde du business. Aussi avec tout ce qui est politique publique, parce que je pense que c'est, les deux côtés sont des forces. Je pense qu'on voit ça en fait de plus en plus, d'où cet intérêt en fait pour voilà, mes études à Harvard.
Donc tu termines quand tes études?
En fait, je suis toujours techniquement, en fait, c'est pas fini, mais voilà, non, je pense que j'avais pris en fait une pause en fait.
Ok, ouais. Mais donc alors pourquoi cette question? C'est que tu démarres Connexion en 2016?
Ouais.
Comment ça te vient l'idée?
Je dirais pour moi, c'était à la base beaucoup centré sur mes recherches.
Ouais.
Je suis venue en France pour faire des projets de recherche qui étaient quand même axés sur la santé, mais pas que. Et donc, je pense que c'était comme ça, en fait, pour moi, l'objectif, c'était quand même de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Parce que quelquefois, quand tu es économiste, tu vois beaucoup des bases de données et pas forcément, en fait, les problèmes, les enjeux. Et j'avais un projet de vraiment comprendre, en fait, et faire des recherches sur la prise en soin, en fait, de charge de santé pour des publics migrants. Et c'était vraiment comme ça, en fait, sur le terrain. Je voulais comprendre leurs expériences, quels étaient les obstacles qu'ils avaient rencontrés sur le terrain qui m'a poussé justement d'aller plus loin.
Mais ça, pourquoi? Enfin, pourquoi en France?
Je trouvais que c'était intéressant de faire en fait une comparaison entre en fait deux pays, systèmes en fait qui sont très très différents, mais en fait avec les mêmes questions. Pour moi, j'avais en fait vécu un peu certaines expériences peut-être aux États-Unis sur en fait ces questions de système de santé, et j'avais eu justement cette idée un peu de en fait faire cette étude un peu plus comparative.
Ok.
Voilà.
Qu'est-ce que ça fait Connexio?
Pour peut-être faire un peu le suivi dans ce sens de comment en fait ça a devenu aussi Connexio. En fait, c'est ce travail sur la recherche. J'avais rencontré beaucoup de monde sur le terrain, vraiment à travers des entretiens pendant presque 2 ans. Et quelque chose qui est vraiment sorti pour moi, c'était peut-être à la base en 2015, quand j'ai travaillé avec certains publics, ils m'ont dit qu'il y a des enjeux qui sont en fait tous les enjeux de la première ligne, qui peuvent être la santé, le logement, mais que pour eux, ils voyaient en fait moins de solutions qui les aidaient en fait sur le long terme, qui peuvent être en fait l'emploi, l'insertion sur profession, les compétences. Et aussi, comme avant, j'étais justement en fait entourée par la tech quand j'étais à Stanford. Pour moi, c'est de dire quelles sont des actions je peux mener qui sont un peu plus long terme, ou justement pour ces personnes en fait aujourd'hui que je vois qui peut-être ont en fait un logement, en fait des services de base, mais qui sont bloqués d'aller plus loin dans leur parcours d'intégration socio-professionnelle. Comment en fait je vraiment peux trouver quelque chose qui peut les aider? Et en fait, tout ce qui est les compétences numériques aujourd'hui, et je pense qu'on va en parler de ça parce que je pense que c'est aussi beaucoup plus nuancé le sujet sur la maîtrise de ces compétences que pour moi en fait c'est ces compétences choses-là, en fait, en termes de maîtrise, n'importe quelle peut-être industrie, secteur d'activité, si on a besoin en fait de travailler sur le upskilling, en fait le reskilling de nos équipes, il faut y aller pour vraiment les aider en fait et pouvoir en fait trouver une manière de en fait avancer leur parcours professionnel.
Mais est-ce que la France, alors ce qui est sûr, c'est qu'il y a des inégalités. Mais est-ce qu'il n'y avait pas plus d'enjeux avec les États-Unis que la France ? Pourquoi la France plutôt que les États-Unis, alors que les États-Unis sont un pays très, encore plus inégalitaire que la France, beaucoup plus inégalitaire que la France ?
Je pense que pour moi, en fait, à la base, c'était parce que j'étais vraiment sur le terrain. J'ai en fait commencé à comprendre les enjeux en fait, locaux. Et pour moi, je pense que c'était vraiment de pouvoir faire quelque chose là, tout de suite, pour les aider, créer quelque chose, même si c'était pour nous, on avait démarré en fait, avec peu de ressources pour des choses, mais vraiment, même si c'était en fait, des cours qui étaient... d'introduction ou même en fait qui peuvent les aider en fait à aller plus loin où je peux les orienter même vers d'autres parcours de formation, au moins ça sert à quelque chose dans le moment. Donc je pense vraiment que Connexio a commencé comme en fait quelque chose où j'ai vu le besoin, j'ai vu peut-être les petites actions en fait que je peux mettre en place. Après je pense que sur le parcours entrepreneurial, c'est aussi, je pense que de suivre ça, en fait, d'une manière un peu organique, d'une manière un peu spontanée dans le temps. Et c'était vraiment, en fait, avec les dernières en fait, années, on avait vu que les besoins sont énormes. Et aussi, justement, il y a des nuances. Quand je parle de ces nuances dans les besoins, c'est que peut-être on connaît en fait nos partenaires comme Simplon, comme Webforce, bien sûr, la CAO 42 parmi d'autres, mais peut-être on a aussi tous nos spécificités. Donc, qu'est-ce qu'on fait, comment on forme les gens, jusqu'à quel niveau on va les amener, quelles sont nos approches pédagogiques. Et l'objectif, c'est que d'un côté, je vois qu'il y a en fait un besoin énorme pour aider les gens et il y a aussi un besoin en termes d'acteurs qui sont assez complémentaires dans nos démarches aussi.
Comment ça marche concrètement ? C'est quoi les offres ? Qui sont tes clients ? Comment est-ce que tu gagnes de l'argent ? C'est quoi ton modèle ?
Oui, donc pour expliquer, donc Connexio aujourd'hui, on est une start-up sociale, organisme de formation. Notre mission qui, en fait, vraiment est d'aider toutes ces personnes et d'assurer qu'il n'y a personne qu'on peut laisser de côté par la digitalisation, la transformation numérique, toutes ces transformations, des changements assez rapides. Et donc là, concrètement, comment on fait ça ? C'est moi à travers la formation. L'accompagnement et aussi tout ce qui est en fait notre réseau de partenaires.
Comment vous les trouvez ces personnes qui sont en difficulté numérique ?
À travers beaucoup de nos partenaires sur le terrain, en fait, on a plus de 200 partenaires qui peuvent aller des missions locales pour l'emploi, bien sûr, et beaucoup de nos partenaires associatifs qui travaillent justement en fait, main dans la main avec nos apprenants aussi. Après, en fait, de plus en plus, on a en fait jusqu'à, dans certains de nos programmes de formation, 40% de nos publics qui viennent bouche à l'oreille parce que maintenant, c'est des anciens apprenants qui parlent autour de eux. Et aussi, dans certains cas, enfin, les réseaux sociaux, notamment en fait, certains réseaux où il y a les jeunes, par exemple. Et peut-être pour revenir aussi sur l'offre de formation aujourd'hui, on est plutôt en fait, en fonction de niveau et de besoin de nos apprenants, une palette d'offres de formation qui va des compétences plutôt de base jusqu'à en fait, des niveaux assez avancés sur les métiers numériques comme développeur full stack, technicien système et réseau. Mais l'objectif, c'est qu'on a aussi en fait, cette idée d'avoir des parcours où on fait le diagnostic au début, comprend bien les besoins, parce que ce qu'on voit aussi quelquefois, c'est qu'on a des... peut-être des stéréotypes, des images de c'est quoi les termes numériques. On mélange quelquefois informatique, IT numérique. Ce n'est pas la même chose. Et les besoins, en fait, pour certaines personnes ne sont pas les mêmes. Donc, l'objectif pour nous, ce n'est pas que juste de former les personnes, les accompagner dans les parcours, mais c'est véritablement de bien, en fait, les orienter aussi dans le bon parcours.
Donc, moi, je suis en difficulté numérique. Je viens vous voir. Ça me coûte combien ? Qu'est-ce qui paye ?
Oui, donc pour nous, objectivement, en fait, aujourd'hui, c'est de trouver en fait, des manières en fonction en fait, de profil, la situation de la personne. On travaille avec certaines personnes dans des situations en fait, de précarité. L'objectif, c'est de vraiment trouver des manières en fait, de soutenir leurs frais de formation. Ça peut être à travers certains dispositifs de la formation professionnelle et également aussi à travers en fait, certaines subventions publiques ou privées qu'on obtient. Donc l'objectif pour nous, c'est vraiment en fait, agir comme un catalyseur parce qu'on voit qu'aujourd'hui, en numérique, c'est un gros levier d'inclusion sociale et aussi professionnelle et comment on aide justement ces personnes à aller plus loin dans leur parcours.
Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? C'est combien de personnes Connexio et c'est combien de personnes accompagnées?
Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, en termes de nos KPI sur les nombres de promotions, nombre de personnes on avait accompagnées, on avait lancé déjà plus de 300 promotions. Donc ça, c'est en fait de groupes d'apprenants. Depuis les dernières années, on est à 2700 parcours de formation réalisés. Donc c'est des places de formation et 200 000 heures de cours déjà livrés. En termes de notre présence géographique, on est actuellement aujourd'hui dans 4 pays. Donc aujourd'hui, c'est la France, bien sûr, le Malawi, dans laquelle en fait on travaille avec les Nations Unies, et aussi la Jordanie et Kenya. Et en France, en fait, on est sur, en fait, on est dans à peu près une quinzaine de villes aujourd'hui et 3 régions. Donc on est en Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, les Hauts-de-France, bientôt au Pays de la Loire aussi.
On dit souvent dans les boîtes, en tout cas mes investisseurs m'ont souvent dit, il ne faut pas se disperser et il faut se focaliser sur une zone géographique. Est-ce que le fait d'aller au Malawi, en Jordanie et au Kenya, alors qu'il y a un besoin absolument gigantesque en France, ce n'est pas se défocaliser?
Pour clarifier, je pense qu'on est sur peut-être un modèle un peu différent au niveau international, où en fait on est sur un modèle d'agir en fait avec des partenaires. Donc on est sur un modèle en fait un peu de empowerment d'autres structures, qui est de justement en fait donner les bons outils, les bonnes méthodologies à eux de livrer en fait.
C'est une sorte de franchise.
Ouais. Et donc je pense que l'objectif aussi, c'est à terme de dire, on a en fait accumulé un certain niveau d'expertise pour former en fait nos apprenants, de vraiment bien les amener en fait vers des parcours et de vraiment en fait les pousser plus loin dans leur en fait parcours professionnel. Et pour nous, c'est de dire comment on veut partager ça avec d'autres structures. Et donc aujourd'hui, c'est un peu déjà le cas en fait dans ces 3 pays. Et je pense demain, l'objectif, c'est de aussi aller en fait sur d'autres moyens de partage, même en France aussi, avec d'autres structures. Donc je pense qu'on est en fait plutôt sur un mode de partage. On reste sur la même ligne en fait stratégique, de demander en fait comment on peut mieux faire, comment on peut trouver en fait aussi d'autres en fait perspectives qui peuvent nous challenger. Parce que je pense que si on parle de compétences numériques et le monde de demain, je pense que les marchés en fait de plus en plus sont en fait assez divers, assez globalisés. Et il faut en fait, pour retirer le meilleur en termes de compétitivité, on a justement en fait beaucoup de points d'observation. Donc je pense pour nous, qu'est-ce qu'on retire aussi pour nos parcours de formation, c'est pas juste les besoins ici, mais en fait les besoins qu'on voit, les tendances qui viennent de s'installer et qui vont en fait venir pour les prochaines années un peu partout.
Vous êtes combien chez Connexio, si on parle juste de la France?
Oui, donc aujourd'hui en France, on est à peu près une quarantaine de collaborateurs.
Ouais, 40. Au niveau structure, c'était une association?
Oui, on est une association et peut-être en réflexion aussi de justement en fait faire évoluer en fait notre modèle.
Tu peux nous en dire un peu plus?
À ce stade, je pense que c'est toujours en fait, une phase de réflexion, mais je pense que justement, comme on cible différents types d'activités, surtout dans le domaine professionnel, on va aussi construire en fait, une autre entité qui en fait sera une entreprise pour justement en fait mieux segmenter nos différentes activités, parce qu'on a en fait justement une palette d'offres de formation et en fonction en fait de nos partenaires, je pense que nos différentes activités, l'objectif, c'est de juste pouvoir en fait mieux segmenter nos différents champs d'activité.
C'est-à-dire qu'une association peut... Enfin, vous pouvez, j'imagine, facturer à un grand groupe?
Oui, pense que tout à fait. Je pense que c'est possible. Et c'est, après, je pense qu'il y a toujours, en fait, tu peux sectoriser les activités. Je pense qu'il y a différentes manières de faire. Mais je pense que plus nous, en fait, de plus en plus, l'objectif, c'est d'être, en fait, plus précise et aussi avec le développement, en fait, de la structure, justement, en fait, d'une manière générale, en termes d'activité. Donc, des projets qui sont plus importants, en fait, et aussi des équipes qui sont en croissance. L'objectif, c'est de aussi mieux segmenter, en fait, par activité.
Comment vous êtes financé?
Aujourd'hui, à travers...
En 2016, là, t'as démarré avec combien de... T'as mis combien dans l'association? Enfin, t'as eu... Comment ça a démarré?
On a démarré avec pas de réseau. C'était vraiment bootstrap. Non, je pense qu'à la base, on avait commencé avec un crowdfund aussi.
OK.
Voilà, pour juste démarrer les activités.
Sur quelle plateforme?
On était sur Ulule. Okay. Voilà, pour commencer. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt sur des différents types de financement, justement en fonction de nos apprenants et aussi les programmes en soi. Donc, on peut voir en fait certaines formations qui sont subventionnées. On a certaines formations qui tombent dans tout ce qui est des dispositifs de la formation professionnelle, donc travail avec les OPCO, les branches professionnelles, pour l'emploi, donc tout cet univers. Et ensuite aussi, on fait de plus en plus, et ça s'était vraiment développé d'une manière organique, des prestations de formation à la demande de nos partenaires et des clients, voilà, qui peuvent varier en fait des grandes associations, des acteurs publics et aussi des entreprises.
Je reviens un petit peu en arrière, mais est-ce que c'est possible de... Là, vous êtes 40, vous avez fait 2700 formations. Est-ce qu'il est possible de faire 200 000 formations rapidement? Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que votre client, ça pourrait être Pôle emploi et former 200 000 personnes, 200 000 chômeurs de Pôle emploi au métier du numérique?
Ouais, en fait, de faire ça, en fait, par exemple, d'ici demain ou dans le quartier.
Après-demain, ouais.
Ouais. Donc, je pense qu'il y a toujours des besoins. Après, je pense que l'enjeu, c'est toujours pour nous, si on veut bien faire les choses aussi, c'est de comprendre, en fait, quels sont les besoins. Parce que, en fait, peut-être, c'est quelque chose qui est également très important, non seulement d'avoir les personnes qui sont bien formées, mais aussi, je pense, partie de notre boulot, c'est de bien faire ce travail, en fait, de plusieurs étapes, qui est de bien identifier déjà les publics et leurs besoins, et ensuite les orienter sur le bon parcours. Si vous me dites qu'on va déjà, en fait, avoir les bonnes personnes qui sont prêtes, en fait, à s'engager, et, en fait, c'est vraiment, en fait, le métier pour eux ou le parcours pour eux, oui, je pense que c'est des choses qu'on peut mettre sur place. Mais je pense que c'est de montrer que ce n'est pas si simple que ça, dans le sens que vraiment, non, il faut
ça,
tout
c'est,
un...
Ça, c'est pas simple.
C'est tout un village pour nous de vraiment, en fait, assurer que nos apprenants sont allés jusqu'au bout et ils ont trouvé vraiment toutes les ressources possibles.
Dans vos apprenants, vous avez des réfugiés.
Oui.
C'est quoi les formations qui leur permettent de s'intégrer
Oui.
en France?
On a des gens, en fait, vraiment, en fait, maintenant plus d'une trentaine de nationalités. Donc, c'est très, très divers et varié. Et en fonction de profil, parcours éducatif, leur parcours professionnel, c'est très varié. Et donc, on a pas mal de jeunes, par exemple, qui sont sur les premières briques. Et donc, ça, c'est en fait les parcours de base où vraiment, c'est des remises à niveau sur les outils bureautiques, les autres outils de base. Et on a également des personnes qui sont intégrés et confinés, qui sont recrutés dans le cadre de nos formations, en fait, sur les métiers numériques. Donc, en fait, on avait, depuis le début, un peu cette mixité, mais l'objectif, c'est aussi de bien assurer, par exemple, si c'est des besoins d'accompagnement qui sont un peu plus fortes, parce que, par exemple, c'est peut-être la première fois qu'ils vont faire les entretiens d'embauche très techniques ou face, en fait, à certains recruteurs et ce n'est pas les mêmes codes sociaux. Je pense qu'on essaie de vraiment travailler avec eux pour être sûr qu'ils sentent à l'aise. On fait pas mal de mock, en fait, entretien. C'est pas la première fois devant un recruteur, en fait, ils font leur entretien et leur pitch, voilà, le projet professionnel.
Tu es membre du réseau Impact France?
Oui.
Qu'est-ce que tu fais chez Impact France?
Donc, chez Impact France, je suis dans le Task Force Tech for Good. Et parmi ça, en fait, les sujets sur lesquels on réfléchit, justement, c'est notamment les sujets d'accessibilité numérique. Donc, aujourd'hui, ça peut être très large en termes de sujets d'impact, mais notre mission avec les autres ambassadeurs, c'est de vraiment réfléchir sur des propositions pour l'écosystème, qui, en fait, des propositions qui peuvent changer la donne, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, en fait, parmi, en fait, les différentes propositions qu'on a, c'est notamment une proposition pour créer justement un droit universel à la formation numérique. Encore plus, c'est plus loin les frontières et vraiment assurer que les personnes qui sont les plus impactées justement par la digitalisation, la transformation numérique, sont ceux qui ont, en fait, justement ces dispositifs pour les aider, en fait, à monter en compétences, bien sûr.
J'imagine que tu connais Take Your Place, qui est un mouvement pour l'inclusion dans les boîtes de la tech.
Je connais bien, et d'ailleurs, en fait, on est un partenaire sur un gros projet avec Diversidays, Mozilla Carache, et je pense que aussi pour nous, en fait, parmi les combats qu'on voulait mener dans l'écosystème, c'est aussi sur le recrutement inclusif et de vraiment réfléchir, en fait, sur comment justement des talents, en fait, de tout parcours, de tout profil seraient, en fait, pris, en fait, avec la même chance par les entreprises.
Dans le programme Take Your Place, donc Cassely est un des cofondateurs, on a travaillé avec Mixity sur un audit RH d'inclusion où on regarde les profils finalement des collaborateurs et ça permet après de prendre des engagements sur des recrutements différents.
Je pense que c'est super aussi parce que pour nous aussi, quand on parle de recrutement en fait, inclusif aussi, je pense que c'est aussi tout différentes étapes de comment, en fait, par exemple, je peux mettre en fait, et avoir une fiche de poste qui soit plus inclusive en termes d'écriture jusqu'à en fait, où sont les bonnes plateformes pour en fait, cibler des candidats jusqu'à justement en fait, comment en fait, bien mener tout ce processus de recrutement.
Est-ce que tu peux peut-être nous parler de deux parcours dans les 2700 que tu as envie de mettre en avant?
Ah, je pense que ça, c'est peut-être difficile. On a beaucoup, beaucoup d'exemples de parcours. Elora, par exemple, qui était une de nos apprenantes, elle n'avait pas eu son bac. Elle était serveuse dans un bar. Et donc, elle est intégrée dans notre formation développeur full stack. Parmi, en fait, dans sa promotion du matin d'apprenant, elle était la première de crocher, en fait, son stage, où elle a été prise en fait en CDI après. Donc je
elle
pense
a pris un chez qui
C'était une boîte multinationale, si je ne me trompe pas, et okay. C'était développeur logiciel front-end.
Voilà. Ok, donc ben, un beau parcours finalement.
Ouais, et c'est de montrer aussi que...
C'est combien de temps ça, le parcours? Enfin, en combien de temps tu formes un développeur full-stack?
Pour nous, c'est 4 mois et demi, voilà.
Okay. Donc en 4 mois et demi, tu changes de vie?
Oui, je pense qu'après, c'est vraiment pour nous, c'est un gros push. En fait, dans le parcours, c'est très intense, mais après, je pense que le reste du boulot reste à faire aussi. Pour l'apprenant, en fait, de continuer, en fait, à évoluer. Je pense aussi, par exemple, également à Saiku, qui a, en fait, fait plutôt notre parcours de base. Et pour lui, en fait, son objectif, c'était de lancer une petite boutique en ligne. Voilà. Donc, il avait cette, en fait, envie de devenir entrepreneur. Je pense aussi, par exemple, si je prends un exemple d'un de nos apprenants à l'international, Austin, qui était, en fait, au Malawi. Maintenant, il est, en fait, un traducteur, en fait, professionnel. Il vient de, justement, en fait, réintégrer, en fait, un deuxième promo avec nous au Malawi en tant qu'assistant formateur. Donc, il faut de montrer que l'objectif, c'est... On pousse nos apprenants en fait, à avancer, mais aussi on essaie de les demander, s'ils souhaitent bien sûr, de revenir et pouvoir en fait, contribuer en fait, à l'apprentissage des autres.
Génial. Il y a quelques mois, tu as été sélectionné par Forbes dans le classement des 30 entrepreneurs de moins de 30 ans les plus influents. Alors là, tu as juste dépassé la limite des 30 ans, mais qu'est-ce que ça t'a apporté?
Je dirais, pour moi, je suis très reconnaissante d'avoir ces types de prix ou en fait de classements. Après, pour moi, je pense que c'est en fait une bonne signe pour le Kinexio qu'on en fait, commence à recruter aussi d'être en plus visible. Ça, c'est vraiment quelque chose qui montre en fait pas juste le travail que je porte dans l'écosystème, mais vraiment toutes les équipes, tous nos formateurs, toutes les personnes qui sont en fait vraiment en fait de manière quotidienne en fait autant engagées avec nous.
C'est quoi quelle est ta vision à 3 ans, et puis peut-être ta vision à 10 ans de Connexio?
Je pense que déjà, en fait, sur le moyen terme, on avait fixé un objectif de pouvoir aider en direct 10 000 personnes. Donc ça, c'est en fait notre objectif à plus court terme. Et à plus long terme, je pense qu'on est vraiment sur cette dynamique de contribuer, en fait, et continuer en fait nos efforts aujourd'hui sur le terrain. Sur les prochaines années, on a cet objectif au niveau national d'avoir cette présence assez importante. On commence à voir justement des sollicitations d'autres régions, d'autres villes. Et l'objectif, c'est de vraiment pouvoir en fait reprendre en fait plus des besoins et plus d'attentes de nos partenaires, des personnes sur le terrain. Et aussi au niveau international, notre objectif, c'est d'avoir en fait une empreinte assez globale aussi. Et donc notre souhait en fait d'ici les prochaines années, dans plus long terme, c'est en fait d'avoir un impact dans 10 pays et 40 villes.
10 pays, 40 villes. Et combien de personnes?
Je pense qu'au niveau direct ou indirect, vis-à-vis de nos partenaires, en fait, on est facilement en fait, vers 200-250 000 personnes.
Avant qu'on démarre le podcast, tu me disais que les grands groupes aujourd'hui, c'est 15% de ton chiffre d'affaires. Je crois que tu travailles avec Monoprix, IKEA, GSF. C'est quoi ta vision à 3 ans dans ton chiffre d'affaires?
L'objectif, je pense que c'est d'augmenter ça en fait à 40-50%, et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir répondre à plus de besoins. On voit en fait que c'est énorme en fait les besoins de la transformation numérique et l'accompagnement des équipes pour justement en fait être au courant de tous ces changements, de toutes ces tendances, et surtout en termes de compétences.
Et c'est des formations que tu fais sur mesure pour les entreprises?
Exactement. Je pense qu'on essaie de vraiment comprendre leurs besoins pour les différentes équipes, quelles sont les compétences et en fait jusqu'où ils vont aller. Et justement, en fait, on va co-créer avec eux un parcours de formation qui soit en fait vraiment en fait personnalisé pour leurs besoins.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut se lancer demain?
Donc, j'ai un conseil qui est un peu paradoxal dans le sens que j'ai un conseil de dire, en fait, je dis ça en anglais, « Start before you're ready ». Parce que quelquefois, je travaille avec certains entrepreneurs ou, en fait, qui viennent avec des idées et peut-être je vais faire un point avec eux dans quelques mois. Ils ont dit, mais j'attends que X, Y, Z soit prêt avant que je lance. Et pour moi, on est plutôt dans un... En fait, et peut-être, j'imagine, ça dépend du type de produit et tout, mais que c'est très important de penser, en fait, à lancer, en fait, une première version qui contienne vraiment, en fait, toutes les caractéristiques minimum qu'en fait, qu'il faut pour lancer et continuer à tester. Pour moi, en fait, ça, c'est que le... En fait, premier bout du boulot, en fait, de lancer en fait une première version et le reste à affiner, itérer sur ça. Donc, je pense que on pense peut-être qu'on peut avoir trop de freins au début pour lancer en disant que si j'ai en fait toutes ces choses, je serai prête. Et peut-être quelquefois, je pousse les gens en fait de vraiment sortir et dire en fait, je teste et je lance.
Je pense que c'est un très très bon conseil pour tous les futurs entrepreneurs qui nous écoutent. Il y a les élections présidentielles, là on est le 16 février, on enregistre le 16 février, les élections présidentielles arrivent à grands pas. Qu'est-ce que tu leur dis aux candidats? Qu'est-ce que tu as envie d'avoir comme mesure pour le prochain président ou la prochaine présidente?
Oui, donc peut-être j'ai évoqué ça un peu avec notre travail dans le cadre de Impact France, mais je pense pour moi, je pense pas oublier en fait des sujets en fait numériques et notamment en fait le Tech for Good, l'inclusion numérique. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé en fait à regarder certaines justement propositions des candidats et on voit que peut-être dans certaines, en fait, les sujets numériques figurent pas ou peut-être c'est lié en fait à des sujets de sobriété ou autres. Et pour nous, on voit en fait qu'il y a des énormes besoins qui sont liés avec des sujets économiques, sociaux. Donc pour moi, c'est un peu ce grand souhait de ne pas oublier ça.
Une mesure.
Donc j'avais déjà en fait parlé de la droit à la universelle à la formation. Je pense qu'une autre qui c'est en fait assez important pour nous, en tout cas dans l'écosystème, c'est de parler de l'équipement. Parce que en fait, oui, c'est bien d'avoir les bons maîtrises des outils. Et aujourd'hui, en fait, on a des zones blanches en termes de couverture. On a des personnes, en fait, on avait vu ça avec la crise Covid, qui étaient dans les écoles pas équipées pour continuer à suivre leur parcours. Et donc, je pense qu'il y a aussi des mesures, en fait, d'offrir des moyens de mieux équiper toutes les personnes sur le terrain pour vraiment, justement, en fait, être, en fait, inclus dans cette ère numérique.
Merci, Jean, d'être venue nous parler de l'inclusion. C'est un terme qui me tient à cœur. Ce que je retiens de ton brillant parcours, finalement, c'est la curiosité. Et j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, tu es une entrepreneuse curieuse, donc hâte de voir ce que ça va donner avec toutes ces idées autour de toi. Je pense que c'est génial qu'il y ait des connexions et maintenant, il faut changer d'échelle pour changer les choses. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci beaucoup.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcast. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.